assez imaginaires qui sont derrière la porte, prêts à prendre le studio.
Et oui, effectivement, merci à tous donc pour cette émission qui fut donc très fournie. On se quitte tout de suite avec le générique de fin.
J'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu. Je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas oublié, je m'en suis souvenu. C'était si surprenant, c'était tant incongru. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas dire d'où ça m'était venu. Le jour où j'ai gagné, le jour où j'ai perdu.
Monsieur Roland Bolide allemand, 130 000. Travaille dans une banque du centre-ville. Le bureau de monsieur n'est pas au rez-de-chaussée.
C'est l'équipe d'Imaginaire sur le 101.5 jusqu'à 22h. Hop là, ouais. Et ben, de quoi que bonsoir Jean-Hugues, allez, on l'a refait.
Oui, bonsoir Romain.
Qui
bonsoir
va nous parler de...
Il y a un... Alors, je vais parler de jeu de rôle ce soir,
ah,
ça,
bah,
ça rigole pas.
Ah, c'est bien ça.
Ok, Bess qui va nous parler d'une héroïne qui sort de...
Qui sort de chez Miyazaki, c'est Sophie du Château Ambulant.
Oh... Et puis Julien qui va nous parler, oh là, il y a un beau livre sur George Orwell.
Oui, un petit auteur nouveau qui fait
de l'actualité. Que tu viens de découvrir.
Oui, bah, que je viens de découvrir, de redécouvrir. Voilà.
Orwell, c'est bulgare en plus comme nom,
non? Non, c'est anglais, ça veut dire...
Angleterre, Bulgarie. Et puis Pierre-Marie arrivera tout à l'heure. Allez, on commence avec la chronique de Tyrannosaurus Imperium.
Inutile de dire que l'actualité fourmille de sujets bien croustillants et bien gras pour votre dinosaure préféré. Mais la plupart d'entre elles ont un goût amer de trahison. Notre pauvre président de la République bien-aimé qui se fait toquer sa représentante au casier douteux par l'Europe. Au fait, est-ce que vous saviez que la cote de popularité de Macron remonte dans les sondages ? Oui, il est presque à 152% d'avis favorables. Il espère passer les 200% avant la fin de l'année. La trahison des médias aussi, qui explique et qui veut bien les entendre qu'une usine Seveso n'est pas du tout dangereuse quand elle brûle. Qu'on se demanderait bien pourquoi d'ailleurs. Au final, quand on réfléchit, tout s'est très bien passé lors du vrai Seveso. Les actionnaires ont continué à toucher des dividendes. Et puis les Kurdes. Bon. Ok, chaque fois qu'on monte des soldats kurdes, c'est toujours des petites minettes en tenue de combat avec de gros flingues. En même temps, qui irait leur reprocher de faire un peu de com' putassière? Mais les Kurdes, quoi? Sans rien? Bon, ok. Ils ne nous ont pas donné de coup de main à Crécy pour bouter l'Anglois hors du royaume de France. Mais quand même, ils ont aidé ces dernières années. Là, on va se retrouver avec des centaines, voire des milliers de combattants de Daesh à se balader partout, avec, je peux l'imaginer, un tout petit peu de haine. Un tyran déclare la guerre, et les Occidentaux, toujours aussi redoutables, se cassent en menaçant de taxer lourdement le raki et le kebab, ce qui risque par ailleurs d'enflammer nos banlieues, et en demandant à l'armée turque de ne pas trop utiliser les armes qu'on leur a livrées. Ah, avec ça, c'est sûr, il doit être totalement terrorisé, Erdogan. Et pendant ce temps-là, les joueurs de foot turcs, non contents de ne pas se faire massacrer par les Bleus, balancent du salut militaire à longueur de match. D'ailleurs, vous noterez que lorsque Tommy Smith et John Carlos lèvent le poing en signe de lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis lors des Jeux Olympiques de 68, on leur interdit de participer aux futurs Jeux Olympiques. Mais là, les Turcs, pas de soucis, allez-y, saluez le massacre des civils. On leur a pas donné un enfant kurde à piétiner, mais c'est sûrement parce qu'ils ont oublié de demander. Ah oui, j'oubliais, forcément. Ce sont nos alliés aussi, comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, toutes ces grandes démocraties. Donc voilà. En fait, non, je ne vais pas en parler. Qui a dit « Oh, la mauvaise foi, lui !» Bon, bah toi, tu iras te reposer dans mes gamelles. Comme vous sortez légèrement ébouriffé de la rentrée littéraire, je vais vous recommander quelques endroits à visiter sur Internet pour vous guider dans le choix de vos lectures. En premier lieu, et en tout bien tout honneur, le site d'Imaginaire, que je vais appeler, pour que vous fassiez pas de bêtises, imaginere.fr. Où vous allez trouver des milliers de chroniques de livres dans les fanzines de l'association La Tête en Noir, La Tête en Rêve et La Tête en l'air. Puis, le site de Calibre, du Hobbit, Julien Védrenne. Alors K, c'est la lettre K, hein, avec un tiret du 6 et libre comme libre. Qui est dédié, lui, essentiellement à la littérature policière, mais pas que. Ces deux sites contiennent des textes écrits par de vrais pros de la chronique qui vous permettront de faire le tri dans la foison des parutions du moment passé. Et même à venir. Alors, lisez-les, ou je vous bouffe.
I'm
Vampire dans Imaginaire sur le 101.5, groupe de matrock plutôt sympa, italien, et ils seront en concert samedi soir au Joker's Pub. Allez, c'est l'heure de la chronique de Bess.
Get away from her, you bitch!
I know my value. Anyone else's opinion doesn't really matter. Mary Poppins, practically perfect in every way.
Spoilers.
Alors aujourd'hui, c'est une chronique un peu spéciale, puisqu'elle est dédicacée à quelqu'un qui me tient particulièrement à cœur. C'est une personne qui sait tout de moi, qui sait m'écouter, me parler, me réconforter. Elle fait partie de ma vie.
Non, c'est pas moi.
Bah, je veux bien entendu parler de...
Ton chat.
De ma psy. Ah. Oui. Ma psy qui me demande régulièrement qui je chronique et qui m'a plusieurs fois demandé pourquoi je ne ferais pas Sophie du dessin animé Le Château Ambulant. Alors voilà, aujourd'hui, Madame Mapsy, cette chronique est pour toi. Le Château Ambulant, c'est un film d'animation sorti en 2004, ça nous rajeunit pas, et réalisé par le grand Miyazaki. Alors, dans cette histoire, Sophie est une jeune chapelière dans un pays en guerre. Elle est malheureusement victime d'un maléfice jeté par la méchante sorcière des Landes qui la transforme en vieille femme. Elle quitte alors la ville et trouve abri dans le Château Ambulant de Aoru, un puissant magicien. Voir sa jeunesse partir en fumée pourrait en énerver, voire en apeurer plus d'un ou plus d'une. Pourtant, Sophie ne baisse jamais les bras. Elle tente de se donner du courage, de positiver, voire de rire parfois de la situation. Situation qu'elle embrasse parfaitement, donc, se considérant comme une vieille dame. Ok, j'ai le dos qui craque, ben je vais faire avec. Dans le château ambulant, elle trouve vite sa place aux côtés de Aoru, donc, de Marco, un jeune garçon, et de Calcifère, un démon du feu. Alors, mamie Sophie, son premier truc, c'est de faire le grand ménage de printemps. Parce que malgré toute sa magie, Aoru n'est pas une fée du logis et Marco non plus. Mais n'allez pas croire qu'elle est une simple femme de ménage, bien qu'elle se définisse maintenant comme telle. Sophie est d'un naturel calme, mais gare à ses coups de colère. Ne lui parlez pas de la sorcière des Landes, ça la met dans tous les états. Ne jouez pas non plus les enfants pourris, gâtés et peureux comme Aoru, ça a le don de l'énerver. Car notre héroïne a tout de même son petit caractère. Quand elle retombe sur celle qui l'a maudite, elle lui tient tête. Quant à l'audience auprès de la magicienne attitrée du roi, s'il vous plaît, elle ouvre grand sa gueule. Oui, Sophie, elle sait s'affirmer quand il le faut. Elle est aussi très gentille et prend soin de son prochain. Ainsi, quand la sorcière des Landes perd ses pouvoirs et devient juste une très vieille femme, presque grabataire, elle va s'occuper d'elle. Il n'est même pas question de pardon, juste d'une vieille femme comme elle qui a besoin d'aide. Sophie voit sans doute dans la vieille sa propre condition. Et ce qui caractérise également Sophie, notre héroïne, c'est l'énergie qu'elle a à revendre. Elle en déborde et c'est contagieux. Elle met du baume au cœur à Marco, à Calcifère et surtout à Aoru. C'est lui qui va changer à ses côtés. Faut dire que c'est un drôle de personnage, mais il va trouver en Sophie la force et la confiance dont il pouvait manquer jusque-là. C'est vraiment une femme inspirante. Et autour d'elle, c'est une véritable famille qui se construit, basée sur ses ondes positives, son sourire et son allant. Sophie, c'est aussi, et c'est important, une femme complètement in love. Ah oui, pour Aoru, elle ferait n'importe quoi. La relation entre les deux personnages est très belle. Ils apprennent à se connaître, font avec les défauts de chacun et vont finalement s'apprivoiser. Aoru découvre qu'il veut protéger Sophie et s'enfonce dans la guerre pour elle. Sophie, elle, veut protéger Aoru de cette folie. Car n'oublions pas le contexte, une guerre dont on ne connaît pas les raisons et qui fait pleuvoir des bombes à longueur de jour et de nuit. Et c'est avec cette terrible situation en toile de fond que cette histoire se déroule. Une belle histoire d'amour qui, rassurez-vous, se finit bien. Alors, pourquoi ma psy insistait tellement pour que je parle de Sophie dans l'émission, pour que je me penche sur ce personnage? Déjà parce que tous les personnages féminins de Miyazaki valent le détour, j'ai plusieurs chroniques sous la semelle à vous faire, hein. Et je pense aussi parce que Sophie est, je le disais, une femme inspirante, pour les autres personnages mais aussi pour le spectateur. C'est une héroïne qui a pour force de douces qualités, qui aime son prochain et sait s'armer de courage quand il le faut. C'est une jeune femme qui a la sagesse d'une vieille dame et une vieille dame qui a la fougue d'une jeune femme. Jeunesse ou vieillesse, qu'importe. Je n'aime pas forcément employer cette expression, mais c'est une leçon de vie que cette héroïne nous apporte. Et pour se faire du bien aux oreilles, on écoute le thème du film, signé évidemment de Joe Hisashi.
Thank you.
Nos auditeurs sont en train de danser.
Ah, on les laisse se remettre.
Si, si, à Péatrice, ils sortent de son corps.
Et ça dansait dans le studio d'ailleurs, c'était. Mm. Non. Oh, c'est... en fait, non, elle n'a pas voulu.
Mais laisse-leur croire.
Ah, bah non.
Bon, je te mets ton jingle.
Ah, bah oui, s'il te plaît, allez. J'attendais.
Ah, bah là, on va rocker un peu la case. Ah, à nouveau. Ah.
Félicitations, Edgy, c'est un calamar.
C'est un calamar. Bon, aujourd'hui, je vais un peu vous causer jeu de rôle. Alors d'abord, je vais le dire haut et fort et en toute modestie, il y a Sébastien Cellerin lui-même. Alors Sébastien Cellerin, c'est l'ancien multisim des 12 singes, de plein d'autres trucs et qui bosse.
Il est toujours chez les 12 singes. Hein,
d'ailleurs, ouais. Et aujourd'hui, il est 12 singes et Brass Young Games.
Et on en reparlera en fin d'émission parce qu'on fait une animation un petit peu Brass Young Games dans 2 jours à la librairie Richer.
Parfait. Mais et bien ce Sébastien Cellerin-là a écrit, je ne sais plus où, je cite, Jean-Hugues Villacampa est un acteur historique du jeu de rôle. C'est pas la classe, ça ? Ben, en fait, peut-être pas tant que ça. Alors, c'est vrai que quand j'ai connu Sébastien, quand on lui appuyait sur le nez, il y avait du lait de rocaille qui sortait. Et pendant qu'il était en train de s'amuser à je sais pas quoi, je buvais des coups avec Richard Garfield, qui est le créateur de Magic, avec Arneson, le co-créateur de Donjons et Dragons, que cet enfoiré de Gigax a arnaqué pour récupérer les droits pour lui tout seul. Je jouais avec Didier Guiséryx, Pierre Rosenthal, Croc, on faisait des fêtes monstrueuses avec les gars de White Wolf, et j'en passe, et les meilleurs. Bon, c'est vrai. Après, je suis resté une quinzaine d'années sans jouer, loin du milieu, laissant mes fils prodiges écumer les éditeurs à grands coups d'idées délirantes et délicieuses comme Solipsity, Metal Adventures, etc. Du coup, acteur historique, ça veut dire aussi, bon, c'est de l'histoire, de la vieille. Genre disparu. Sébastien, il dit, ouais, c'était une époque où les gars bossaient deux heures, jouaient 6 et faisaient la fête 3. Bon, il n'a pas tout à fait tort, le Sébastien, je le revendique même. Mais là, je tiens à le dire, depuis 2 ans, je rejoue. J'ai même très modestement participé au renouveau de l'affaire de Luce de Thierry Crouzet, illustré par Casa, où 12 singes, décidément, on n'en sortira pas. J'ai fait jouer un début de campagne perso pour l'appel de Cthulhu en janvier dernier, une équipe de solides vétérans montpelliérains. J'ai d'ailleurs envoyé à Sébastien Cellerin à sa demande, en février, il va sûrement me répondre un jour que c'est vraiment bien, mais que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale. Et il y a 15 jours, avec Anto de Pierre-Marie, mais il n'est pas là, donc on ne saura pas s'il s'est amusé avec les papis, nous avons joué 3 jours une campagne, toujours pour l'appel de Cthulhu, dans laquelle s'était remarquablement plantée la fameuse équipe de vétérans suscitée. Et nous avons réussi avec brio et d'énormes difficultés. Bref, le jeu de rôle et moi, c'est redevenu l'osmose totale. Je joue juste 50 fois moins qu'il y a 40 ans, mais sûrement vachement mieux. Du coup, j'ai plégé plein de trucs. Les potes d'abord, avec le Wizin de Benoît Tinost, si tu veux un coup de déprime stressante ludique, Ziva. Puis Heroes et Dragons, ce que je croyais être la 5e édition de Donjons & Dragons, alors qu'en fait, non. 17 kilos de matos que je reçois 30 mois plus tard, alors que je ne m'en souvenais plus. Et que je vais bientôt sortir de l'emballage. Et puis, enfin, les masques de Nyarlathotep et le jour de la bête, que tout le monde s'est foutu de moi quand, sans détour, a fait le grand plouf avec Chaosium, qu'il retirait les droits à raison, mais que j'ai fini par recevoir et que je vais sûrement travailler d'ici 2050, si Cthulhu me prête vie. J'ai aussi pledgé Pax Elfica, et je dois dire que là, ça cause de grands troubles dans mon monde de joueurs en mode oh, « mais ça craint des elfes méchants !» Alors lui, je l'ouvrirai tout de suite. J'ai les joueurs et mon ami Jérôme Verschuren, que vous connaissez tous, est directeur de publication, sortie prévue premier trimestre 2020. Alors généralement, ce type d'information veut dire pour Noël. Bon, mais c'est Jérôme, on peut avoir une bonne surprise. Enfin, pour les cinéphiles que vous êtes tous, Alexandre Groslot, l'un des premiers gagnants du concours imaginaire, matisé Fiasco. Je résume, il n'y a pas plus de 4 joueurs, il n'y a pas de meneur de jeu. Grosso modo, un thème qui est un film connu de tous, et des tirages de nombreux dés à chaque événement dans le film pour savoir ce qui se passe de manière totalement iconoclaste, semble-t-il. L'exemple que m'a donné Alexandre est tiré du fameux The Thing de Carpenter. Pour les martiens qui nous écoutent, The Thing est un film en huis clos dans l'Antarctique où un monstre polymorphe prend la place d'êtres vivants et les transforme en monstres. Bon, en vrai, on ne sait pas trop les motivations de la chose, mais en fait, on s'en fout.
La partie commence, la partie qu'on fait, ces joueurs, commence dans une ambiance totalement paranoïaque du film, et dérive rapidement, puisque les joueurs ont découvert la base nazie sous la glace, où les méchants SS capturaient les Otari, afin de les transformer en poney. Bien entendu, outre la variation scénaristique de la partie, j'imagine que les qualités intrinsèques des joueurs influent considérablement sur l'histoire et que les copains d'Alexandre n'ont pas joué en mode coca-vapote à la mangue. Inutile de dire que je suis bien tenté par l'histoire et qu'il faut juste trouver des joueurs et qu'avec ce genre de thème, ça ne doit pas être trop compliqué. Une table imaginaire, peut-être ?
Et ça sort où, alors ?
Alors, j'ai plus en tête. Je suis allé voir et tout, mais je sais plus.
Bon, et puisqu'on parlait de The Thing, on va s'écouter le générique, en fait, enfin le générique, le thème du film de John Carpenter. À la base, c'était Ennio Morricone qui avait fait la BO, mais là, Carpenter l'a repris sur son album Anthologie de 2017, où il reprend un petit peu les thèmes, enfin les tubes des musiques de ses films. Parler Julien,
c'est normalement c'est chronique. Si
non, pas Julien, pitié, pas Julien. Que savons-nous de 1984, hormis le fait que c'est l'année de naissance d'une de mes petites sœurs?
Alors, je tiens à te préciser que
c'est avec elle que tu regardais du Miyazaki.
Il y a une chronique faite par Romuald qui a très bien parlé de pourquoi 1984.
Mais Romuald n'étant pas là et les absents ayant toujours tort, on va revenir à ma chronique. Eh bien, d'abord que c'est un roman d'anticipation de George Orwell, George ou bien pour les anglophobes, à l'instar de Pierre-Marie, George du coup avec un S, parce que sinon quand c'est américain, on ne met pas de S, Alors bon, ça mérite déjà une première question collective. Pourquoi 1984 ?
C'est écrit en 1948.
Ah, bien, Pierre-Marie. 1948, 48, 44, haha, inversion des nombres et zou en un titre de bouquin. Petit aparté, s'il avait écrit en 1947, George Orwell aurait appelé son roman 1974, faisant ainsi la nique à David Peace, qui aurait dû trouver un autre titre au premier de ses quatre romans qui s'intéressent aux années sombres de l'Angleterre. Angleterre, comme par hasard. En plus, ça aurait été un hommage à mon année de naissance à moi. Notons que s'il avait écrit en 1944, il aurait été emmerdé. Et que s'il avait écrit en 1942, ça aurait été un roman uchronique. Vous n'aviez pas pensé à tout ça, hein ?
Et c'est bien, ça fait 2 minutes de chronique pour rien.
Bah, lui, si. D'ailleurs, il a bien fait gaffe à pas aller au bout de son concept et l'intituler 9184. Pas folle la guêpe. Il savait que les humains auraient été éradiqués de la surface terrestre depuis un bail genre 7154 ans. Alors, passons au fond du roman. Il est placé sous le sceau d'un autre nombre, 3. 3 comme le nombre de super pays qui passent le temps à se faire la guerre, l'Océania, l'Eurasie et l'Estasie. En gros, les 3 premières puissances mondiales actuelles qui détiennent chacune un quart du monde. Le dernier quart, c'est l'Afrique où l'on se bat. C'est pratique parce que c'est loin et que là-bas, on peut à peu près faire ce qu'on veut. Hein, on le voit aujourd'hui encore. 3, c'est aussi le nombre de protagonistes importants de l'intrigue. Il y a d'abord Winston Smith, un prénom pas très commun et qui rappelle Winston Churchill et ses cigares, contre-pied aux cigarettes Winston. Un gars dont le boulot est de réparer les boulettes de Big Brother paru dans le Times, genre Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté en Écosse. Alors, lui, c'est un membre du parti selon l'ANGSOC, acronyme de l'Angleterre sociale. Là aussi, le nombre 3 a son importance. Il y a 3 classes, le parti intérieur, le parti extérieur et les prolétaires. Winston, c'est un membre du deuxième échelon, bref, pas grand-chose, mais bien plus que les prolétaires qui sont la ligne de l'humanité. Mais ils peuvent forniquer et boire de la bière.
C'est bien.
Bon.
C'est la base.
Winston, en plus, ça ne lui procure pas trop d'avantages. Il passe son temps à chier dans son froc. Bon, il se rebelle un peu en achetant un cahier vierge et une plume pour écrire. Attention, la transgression dans ce régime totalitaire. Tout ça à l'abri des nombreux télécrans qui vous épient sous toutes les coutures. Il boit du mauvais gin et il fume de mauvaises cigarettes avec la crainte d'être vaporisé. Sa femme est partie, mais un jour il croise Julia. Julia, c'est un peu le catalyseur de l'histoire. D'ailleurs, c'est le deuxième des 3 personnages d'importance. C'est celle avec qui il fait l'amour à l'ancienne, genre dans un lit de place ou dans la campagne sous les arbres et leur rossignol. Mais bon, dans 1984, on ne doit pas aimer son prochain puisqu'on aime déjà Big Brother. D'ailleurs, en coulisses, on s'escrime à rendre le plaisir obsolète, à la fois médicalement et moralement. Alors, Orwell les fait entrer dans la résistance, la fraternité, par l'entremise d'O'Brien, le 3e larron fumeux. Bah oui, parce que c'est une taupe. Un gars dont le boulot est de débusquer les déviants de la société, de les emmener, salle 101, faire face à leurs démons les plus intimes, ici des rats, et dénoncer ce qu'ils ont de plus cher au monde, comme par exemple Julia. 1984, c'est un roman d'anticipation kafkaïen. C'est-à-dire que l'écriture puissante est mise au service de l'absurde. Il y a l'absurde du novlangue, l'absurde du travail de Winston, l'absurde des conflits, et surtout une interrogation omniprésente. Qu'est-ce que la vérité ? Dire qu'il s'agit d'un roman pessimiste serait un euphémisme. Parmi les nombreuses questions métaphysiques, celle du solipsisme collectif en lutte contre l'indépendance de la pensée. Et oui, j'aime bien les termes abscons. Alors, si vous ne connaissez pas, allez voir le solipsisme dans le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein et m'embêtez pas. Surtout, on est bluffé par la vision sociétale apocalyptique envisagée à la fin de la guerre par George Orwell. On est en droit de penser que Big Brother, c'est Staline. Mais à mon sens, ce serait réducteur. Big Brother, dans l'esprit éclairé de George Orwell, c'est l'incarnation du capitalisme totalitaire. Une divinité qui vous montre la voie et vous apprend le conditionnement made in classe dirigeante. Celui qui gouverne parce qu'il aime gouverner. Celui qui a servi avec abnégation. D'ailleurs, au milieu du roman, O'Brien explique bien la lutte des classes et comment les dominants se jouent des dominés avec des révolutions biaisées. S'il l'écrivait aujourd'hui, on causerait de roman social. Bref, lisez 1984 et puis La ferme des animaux pour ses règles gravées sur un mur qui évolue subtilement jour après jour. C'est désolant, mais si ça peut vous révolter, alors ce sera déjà pas mal. C'est l'heure, donc je me vaporise.
Saloche, à la fin de ce morceau Eurythmics. Pierre-Marie, comment on prononce le nom de ce groupe imprononçable?
Alors, c'est rythmique, c'est Eurythmique.
Le fait exprès maintenant, c'est plus drôle.
Non, mais je ne parle plus anglais.
Eurythmics, c'est extraciste.
Eurythmics. Et donc, ils avaient fait la BO du film 1984, sorti en 1984. Et donc, c'était le dernier morceau, Room 101, on peut dire. Alors, pourquoi la pièce 101?
Eh bien, comme je l'ai expliqué brillamment dans ma chronique, la salle 101, et non pas pièce 101, c'est la salle des tortures ultimes dans le roman. Voilà, c'est celle où on a un passage obligé, même si on l'a tout avoué, même si on a dénoncé tout le monde, même son voisin qui n'en a rien à faire, eh ben on passe quand même à la torture parce que le pouvoir implique qu'on torture les gens.
Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était le nom d'une salle de réunion à la BBC et George Orwell s'emmerdait tellement en réunion qu'il a décrété que ça ferait un bon numéro pour une salle des tortures.
Eh ben bravo, Romain.
Et donc la torture, c'est de ne rien faire, d'accord.
Allez Pierre-Marie, c'est l'heure de ta chronique.
Ouais. Avec les jingles. C'est bon ?
Bah oui, c'est bon.
c'est
ton jingle, hein.
Oui, bah moi j'aime beaucoup mon jingle. Alors, puisque moi j'écoute les chroniques des autres, je vais vous rappeler une de mes précédentes chroniques qui est pour Sorcière et Associés, écrite par Alex Evans.
Oui, dans la collection Bad Wolf chez ActuSF, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Dirigé par Audrey Holwett. Premier roman de chez ActuSF de Alex Evans, ce roman mettait en place deux personnages, Tanit et Padmé. Je vais avoir du mal à continuer avec quelqu'un comme ça à côté. Tanit et Padmé dans la ville de Jartha, ville qui a vu l'émergence de la magie qui avait déserté ce monde pendant 400 ans. Eh bien, pour la rentrée littéraire fantastique, donc au mois de septembre, Alex Evans a sorti un troisième livre dans univers-là, mais pas avec les mêmes héroïnes. Alors, souvenez-vous, après Sorcières et Associés, l'échiquier de Jade était sorti avec les mêmes héroïnes,
aussi, ouais.
Qui avait d'ailleurs été encensé par la chronique. Cette fois-ci, nous allons aller dans une ville concurrente de Jartha et nous allons suivre un personnage, Constance Agdal, qui est une universitaire. Son boulot, c'est de faire de la magie élémentaire. Elle doit décortiquer la magie et en faire une science technique pour savoir comment faire, pour pouvoir l'apprivoiser et surtout comprendre pourquoi est-ce qu'elle a pu déserter et pourquoi est-ce qu'elle est revenue et est-ce que c'est possible de prédire le futur, savoir si ça redésertera cet univers ou non. Sauf que voilà, elle n'a pas de chance, elle est mage. Et dans ce monde-là, c'est clairement pas une qualité, puisqu'il faut aller se faire nommer au magisterium et se faire recenser, et donc suivre des inquisitions, puisque c'est le nom, ce sont des inquisiteurs qui font ça, qui vont vérifier qu'on ne devient pas un mage déviant au fil des années, et qu'on ne va pas commencer à invoquer des démons. C'est un petit peu un non-sens, puisque la totalité du monde voit apparaître de temps en temps des démons qui sont au service de l'humanité. Par exemple, des maisons closes qui sont occupées par des succubes. Bah oui, c'est vachement pratique, mine de rien. Succube et incube. Et d'ailleurs, Constance Agdal rencontre un incube. Alors forcément, l'incube est intéressé par elle, puisque elle, en tant que mage, dégage cette sorte d'énergie qui va attirer les démons. Sauf que ce démon-là, cet incube-là, n'est pas censé être présent dans cet univers-là, puisqu'il vient d'un univers parallèle et il a atterri sur ce monde-là. Et Constance va essayer de comprendre pourquoi. Toutes les questions de ce roman, ça va être de comprendre pourquoi est-ce que les démons arrivent, ça c'est un truc basique, mais aussi tourner autour d'une machine éponyme du roman, la machine de Léandre. Léandre est un ancien mage, il y a très longtemps, de cette ville-là, qui avait décidé de créer une sorte de machinerie, un petit peu à la steampunk, qui puisse donner des sorts à tout le monde. Un petit peu comme on le fait avec un smartphone maintenant, alors qu'avant on envoyait des pigeons voyageurs. C'est beaucoup plus pratique d'avoir chacun dans sa poche un truc technologique pour pouvoir envoyer des messages.
Et puis au moins ça ne chie pas dessus.
Ah ça, et ça bouffe pas les papiers, ça c'est sûr. Donc Léandre essayait de créer une machine qui puisse permettre ça, sauf que la magie a déserté le monde et sa machine ne servait à rien. Et il a disparu. Constance va se retrouver une année avec cette machine-là, et va donc essayer de mener à bout les recherches qui avaient été commencées par Léandre il y a 500 ans. Je vous laisserai aller lire ce livre que vous trouvez dans n'importe quelle librairie douée d'un très bon rayon de SF pour la modique somme de 19 euros à peu près. ActuSF, Alex Evans. Excellent roman, très bon moment, très divertissant. Alors on est très loin de la SF d'anticipation où on va analyser et proposer des extrapolations sur notre univers. C'est vraiment du divertissement. Mais ça pose plein de questions. Et puis, Alex est une autrice très, très engagée. Oui, tu as sourcillé à ce mot-là. Tu n'aimes pas ce mot-là, autrice?
C'est un gros débat. Il y a un article dans Slate aujourd'hui sur ce genre de choses.
Alors, j'avoue que je préfère le mot auteur avec un E à la fin, un peu au québécois. Mais Alex préfère le terme autrice, donc par respect
qu'en
pour elle.
Qu'en pense notre autrice, maison ?
Je pense que autrice est un très joli mot.
Ah.
Je vous en prie, battez-vous.
Non, qu'on te laisse continuer ta chronique.
Un autre livre, là.
Exactement, je vais vous parler d'un deuxième livre qui a aussi défrayé la chronique.
Une belle couve
et
aussi.
Cette fois-ci est un peu plus dense, on va dire ça comme ça. Il y a maintenant 2 semaines, j'ai eu la malchance d'aller dans un festival, excellent festival littéraire, mais j'étais accompagné par Patrice, alors comprenez que c'était un petit peu...
Non, je t'ai pas vécu.
Il était en mode promo.
Donc j'étais aux Aventuriels de Main Troll, juste à côté de Clermont-Ferrand, et j'ai eu la joie de retrouver l'équipe Nemos, qui font partie des Indés de l'imaginaire, au même titre que ActuSF. Sur le stand Nemos, il y avait un auteur dont j'ai fait la connaissance, je le connaissais de visu, mais je n'avais jamais pu discuter avec lui, Thibaut Latil-Nicolas, qui a écrit Chevauche Brume. Ça te parle, Chevauche Brume ?
Pas du tout.
Bah, bravo, tu t'intéresses franchement à SF, toi.
Bah, une bonne chronique d'un Bifrost. Hein,
il y a eu, en fait, ça, il a été encensé par la critique. Il fait partie des livres qui étaient primés pour les Imaginales, qui ont d'ailleurs été remportés par Rouille, si je me souviens bien, les Imaginales. Chevauche Brume, on va rentrer sur un roman, pas médiéval fantastique, mais plutôt Renaissance baroque fantastique. Un monde parallèle avec tout ce qu'il y a de plus baroque, un petit peu comme ce qu'on a pu avoir dans le roman de Del Socorro, Vent de gloire.
Royaume de gloire.
C'est ça, excusez-moi. Désolé, Jean Laurent, si tu m'écoutes, je me fouetterai, je me flagellerai en pensant à toi.
Ouais. Ah, la radio, c'est nul.
Ah, c'est bien ça. Donc, c'est un roman baroque. On va suivre une compagnie de mercenaires, comme il pouvait y en avoir, composée d'épéistes, d'albardiers, de chevaucheurs, qui vivent dans un pays avec des tendances impérialistes, qui vont décider de conquérir toute une partie du monde qu'ils connaissent. Sauf que le monde qu'ils connaissent est délimité par une brume qu'il y a autour, une brume noire, un petit peu sans encre qu'il y a, qui s'élève sur des hauteurs et qui empêche le monde d'évoluer et de pouvoir s'étendre, enfin que ce royaume puisse s'étendre. Sauf que un jour, pendant une des guerres impérialistes pour grappiller quelques territoires de plus au détriment de pauvres autochtones qui n'avaient rien demandé à personne sinon de pouvoir cultiver la betterave en paix, la brume décide de vomir des êtres immondes qui ne ressemble à rien de connu, c'est-à-dire pas humain en fait. Donc on va dépêcher les mercenaires pour aller voir ce qui se passe, et le meilleur moyen de savoir ce qui se passe, c'est de commencer par tuer tout le monde, et après on voit ce qu'il y a. On est bien d'accord ? C'est la base. Hein.
C'est de la dark fantasy.
Alors justement, je te laisserai le lire.
On va rester là.
Je te laisserai le lire et comprendre un petit peu ce qu'il se passe, puisque c'est, comme je le disais, c'est un roman dense, très dense, très très divertissant, très imaginatif. C'est un roman géographique. On se balade avec cette compagnie de mercenaires un petit peu à les annales de la Compagnie Noire. Les personnages ne sont qu'un décor, on s'attache très très peu aux personnages, on va s'attacher à l'âme de la cohorte, et ils vont tous mourir plus ou moins. C'est une compagnie.
Comme la Compagnie Noire.
C'est une compagnie noire. C'est une compagnie. Le but, c'est de suivre, pour ceux qui connaissent la Compagnie Noire, c'est une compagnie de mercenaires qui a été créée pour apporter l'apocalypse. Ils finissent par s'en rendre compte. Et c'est extrêmement intéressant parce que les personnages n'ont aucun intérêt. C'est vraiment voir la manière dont l'héritage se perpétue au sein de la compagnie. Et donc,
disons qu'on n'a pas le temps de s'attacher, en fait.
On n'a absolument pas le temps de s'attacher. D'ailleurs, c'est clairement dit. Hein, ils sont là pour... L'infanterie existe pour être sacrifiée.
Personnages détachants, quoi.
C'est ça. Donc voilà, 2 romans à lire si vous voulez, sur les longues soirées d'hiver qui vont bientôt arriver, si vous voulez lire sur votre pelisse d'ours de neige écrasé devant la cheminée La Marchinerie de Léandre, ça sera pas mal. Si vous voulez être dans
pas un canapé futon. Ouais.
Alors le canapé futon, je te conseillerais Chevauche Brume, qui a été encensé par la critique, comme je le disais, et à juste cause.
Eh ben, c'est l'heure de la rubrique agenda. D'abord, on va vous annoncer, donc dans le cadre du mois de l'imaginaire, on a fait une animation, c'était jeudi dernier, on avait accueilli Karim Berouka, qui a écrit chez ActuSF, qu'on avait déjà interviewé, invité au Salon Imaginaire en 2018. J'ai enregistré l'interview, donc on va probablement vous diffuser ça dans notre prochaine émission dans 2 semaines. Et on remet ça vendredi prochain, donc entre 16h et 19h. Donc il y aura un stand imaginaire dans la librairie Richer. On vous fera gagner des petits cadeaux sympas. Donc il y a des affiches de Manchoux, il y a des jeux de cartes Bragelonne, il y a des bouquins, notamment offerts par un petit peu toutes les maisons d'édition qui participent à ce truc. Et on aura avec nous Stéphane Pignol, donc on avait déjà accueilli dans cette émission en juin dernier, qui viendra nous présenter à nouveau son jeu Horde, donc sorti chez Bragelonne Games. Mmh. Voilà. Et il nous racontera ça, tout ça, et on pourra jouer donc
en direct à la radio. Vous pourrez assister à cette partie, ça va être magique.
Non, ce sera donc vendredi prochain de 16h à 19h, non pas à Radio G, mais à la librairie Richer. Une autre animation à annoncer, décidément, c'est compliqué, je suis fatigué ce soir. Hein. Mmh. C'est l'anniversaire de la Tête en Noir à la librairie
Contact,
cette fois.
Oui, on va fêter le 200e numéro de la Tête en Noir.
Ouais, c'est une forme d'anniversaire.
Le jeudi 24 octobre à la librairie Contact, si Pierre-Marie nous laisse parler. Et il y aura 3 auteurs d'invités en début de soirée. Marc Villard, nouvelliste. Très très joli styliste qui parle de littérature urbaine et de jazz
qu'on a reçu à Imaginaire il y a quelques années.
Ronan Gouezec qu'on a reçu à Imaginaire il y a quelques années.
C'était son premier livre
qui s'appelait Radamer, et là il vient de sortir le 2 octobre un nouveau roman masse critique, le tout au pluriel, un peu comme Pierre-Marie. On y parle de personnages lourds, donc ça fait sens, hein. Et le troisième, Julien Elbruck,
ancien secrétaire d'Imaginaire.
Qu'on a accueilli il y a quelques années aussi, d'ailleurs.
Ouais. Et qu'on entend d'ailleurs tous les lundis soirs sur. Non, c'est un lundi sur deux sur Radio G dans l'émission Le Manche Disque consacré à la culture du vinyle.
Voilà, donc on fera cette rencontre tripartite.
Ouais, donc il y aura aussi des dédicaces, évidemment.
Il y aura des dédicaces.
C'est ouvert au public, alors, donc je suppose.
C'est ouvert au public. Bah oui, dans une librairie, c'est plus sympa si c'est ouvert au public. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Franchement.
Les librairies ne servent pas à grand-chose.
Du coup, ce sera un peu plus tardif. Non, je ne sais pas.
À 18h, je crois, de mémoire. Peut-être 19.
Il y a une petite chouille après, quand même, non
Bah, il y aura sûrement à boire et à manger.
Mais tu participes aussi, tu activement, je veux dire, tu
je suis activiste, j'anime la rencontre.
Ouais, c'est ça. Voilà.
C'est ça. Ouais, ça doit être. Ouais. Et on parlera d'ailleurs du recueil la trilogie Barbès de Marc Villard qui sort à la Série Noire. Voilà. Et sinon, autre actu mais très très urgente, demain à la bibliothèque d'un grand de Lefresne-sur-Loire. Nous avons une lecture musicale d'après un récit de voyage d'Emmanuel Ruben qui a été récompensé au Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo du prix Nicolas Bouvier. Et donc c'est une lecture qui est mise en musique saxophone et harpe. Donc ça sera là aussi sûrement très très intéressant. Je m'en réjouis d'avance et j'anime aussi la rencontre. Voilà.
Sinon, en ce moment, au J, donc 12 Place Saint-Bac, en ce voyage en science-fiction qui a commencé mercredi dernier par une conférence sur le cinéma de SF. Et à partir de jeudi, donc il y aura une exposition Science Machina, les machines fantastiques en bande dessinée. Mardi prochain, dans une semaine, ils feront un après-midi jeux et SF, donc où il y aura des jeux de rôle, jeux vidéo, combat de sabre laser. Si vous y allez déguisé, vous aurez droit à un petit cadeau. Le soir, il y aura une murder party, mais si je me rappelle bien ce qu'on a reçu quelqu'un du J dans la dernière émission, je crois que c'est complet. Et puis le lendemain, le mercredi, jeux vidéo en science-fiction tout l'après-midi. Et donc il y avait aussi il y a aussi art et science-fiction, donc le 25, ça doit être un vendredi, avec notamment un atelier d'écriture donc animé par Inès qu'on avait reçu dans notre émission il y a 2 semaines. Et puis il y aura une expo, donc il y avait un appel aux jeunes artistes pour exposer, et donc ils ont choisi, il y a un jury qui a voté pour les œuvres, et les œuvres seront exposées du 25 au 31 octobre au J. Donc que dire d'autre, mardi prochain à la BNF, c'est l'ouverture de l'exposition consacré à Tolkien. Voilà, on aura l'occasion de vous en reparler. Julien, tu avais autre chose à annoncer ?
Ben, pour compléter ma chronique sur 1984, je signalerai l'existence de la bande dessinée Orwell chez Dargaud, une bande dessinée de Christin avec la participation de Juillard, de Balèze, de Larsenet, de Blutch, de Garnido, d'Enki Bilal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Assez... biographie dense et assez atypique. Et aussi, en janvier 2020, sort chez Soleil l'adaptation en bande dessinée de 1984. Voilà, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Et puis, on a aussi les Utopiales qui auront lieu à la fin du mois, toujours à la Cité des Congrès de Nantes. On aura pas mal d'envoyés spéciaux là, qui sont autour de cette table. On en reparlera dans deux semaines.
Du 31 Allez. Au 3.
Ouais, novembre. Allez, on termine en musique avec... c'est, samedi dernier, c'était l'International Cassette Day. Vous saviez qu'il y avait le jour de la cassette ?
Non.
Bon. Et à cette occasion, Spun Out of Control, le label anglais qui sort, je vous en ai déjà parlé, on a déjà écouté la, une BO d'Anthony Maiovi il y a quelques semaines dans l'Imaginaire sur le 101.5, donc label spécialisé dans les BO qui existent ou qui n'existent pas. Label anglais, et à l'occasion de Cassette Day, ils ont sorti deux cassettes, et il y en a une qui était, s'appelle Grayson, et c'est Yann Bourré. Donc Yann Bourré, c'est un Belge qui fait, qui avait fait la BO de Where the Skin Lies. Je ne sais pas si vous avez vu ce film d'horreur anglo-belge. Et là, donc l'album Grayson, ça vous dit quelque chose ? Amanda Grayson, c'est un album concept autour d'un personnage. Amanda Grayson, ça vous dit rien ? Non. C'est la maman de quelqu'un qui est très célèbre dans la science-fiction. Elle, c'est une humaine, mais elle a épousé un diplomate qui vient d'une planète où les gens ont les oreilles pointues.
Spock.
Ouais, c'est la maman de Spock. Et donc c'est un album bien joué, Pierre-Marie. Lundi, c'est un album concept en fait sur le déracinement en fait de cette femme qui se retrouve donc sur la planète des Vulcains, c'est ça. Donc on se termine, on termine l'émission avec ça. Hop, bel album d'électro et restez à l'écoute du 101.5. C'est ça dégouline dans Cornet dans quelques minutes. Bye bye.
Au revoir.
Bonsoir.
À bientôt.
Il reste deux exemplaires de cette cassette sur la page Bandcamp de Spun Out of Control, donc dépêchez-vous. Thank you.